Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission de Un auteur, une nouvelle, puisqu'on a eu une petite absence là pendant le confinement. Et donc aujourd'hui, bien Philippe est avec moi, comme souvent dans les émissions.
Voilà, avec plaisir, bonjour à tous.
Alors comme il est un peu difficile là, de voyager peut-être cet été, de partir en vacances et tout, donc on vous a concocté un petit voyage
intérieur,
voilà. Et donc, pour ça, il faut quand même avoir de tous les atouts en main pour faire un bon et agréable voyage. Et donc, nous allons donc écouter les conseils avisés de Paulo Coelho, donc une nouvelle qui est intitulée « Voyage capital », qui fait partie d'un recueil de 9 nouvelles d'auteurs différents. Donc, on a choisi cette... Voilà, première nouvelle. On va vous parler un petit peu de... Alors, il y a différents auteurs hein, dans l'émission. Et puis, pour voyager un petit peu autour du monde. Et... Non, tu voulais dire quelque chose ?
Non, c'est que Paulo Coelho n'a pas écrit que l'alchimiste, la preuve. On va le démontrer.
Voyage capital. Dès mon plus jeune âge... J'ai compris que les voyages représentaient pour moi le meilleur apprentissage qui soit. J'ai conservé jusqu'à ce jour mon âme de pèlerin et j'ai décidé de transmettre quelques-unes des leçons que j'ai apprises dans l'espoir qu'elles puissent être utiles à d'autres. Premièrement, évitez les musées. Ce conseil peut sembler absurde, mais réfléchissons-y ensemble un instant. Lorsque vous vous trouvez dans une ville étrangère, n'est-il pas bien plus intéressant de chercher à en connaître le présent plutôt que le passé ? Il arrive que certains se sentent obligés de visiter les musées parce que, depuis tout petit, on leur a appris que voyager consiste à rechercher ce type de culture. Je ne conteste pas l'importance des musées, mais les visiter demande du temps et de l'objectivité. Il faut savoir ce que l'on désire y voir, sans quoi l'on ressort avec le sentiment d'avoir vu un certain nombre de choses fondamentales pour sa vie, mais sans très bien savoir pourquoi. Deuxièmement, fréquenter les bars. C'est là, plutôt que dans les musées, que la ville vit. Les bars ne sont pas des discothèques, mais des lieux où la population se retrouve pour boire un verre, ou penser au temps, et elle y est toujours prête à converser. Achetez un journal et observez le va-et-vient. Si quelqu'un lance un sujet de discussion, aussi futile soit-il, joignez-vous à la conversation. On ne peut juger de la beauté d'un chemin en se contentant d'en observer les premiers mètres. Troisièmement, soyez disponible. Le meilleur guide touristique est quelqu'un qui habite la région, qui connaît tout, qui est fier de sa ville, mais ne travaille pas pour une agence. Sortez dans la rue, choisissez quelqu'un avec qui vous avez envie d'engager la conversation et demandez-lui des informations. Où se trouve telle cathédrale? Où est la poste? Si vous n'obtenez aucun résultat, choisissez quelqu'un d'autre. Je vous garantis qu'à la fin de la journée, vous aurez trouvé une excellente compagnie. Quatrièmement, arrangez-vous pour voyager seul ou si vous êtes marié avec votre conjoint. Cela vous demandera davantage d'efforts. Personne ne sera là pour veiller sur vous, mais c'est de cette façon seulement que vous parviendrez à quitter réellement votre pays. Les voyages en groupe constituent une manière déguisée de se trouver à l'étranger tout en parlant sa propre langue, en suivant les instructions d'un chef de troupe et en se préoccupant davantage des commérages du groupe que des lieux que l'on visite. Cinquièmement, ne cherchez pas à comparer. Ne comparez rien, ni les prix, ni la propreté, ni la qualité de vie, ni les moyens de transport, rien. Vous ne voyagez pas dans le but de prouver que vous vivez dans de meilleures conditions que les autres. Vous désirez au fond savoir comment les autres vivent, ce qu'ils peuvent vous apporter, comment ils appréhendent la réalité et le côté extraordinaire de la vie. Sixièmement, partez du principe que tout le monde vous comprend. Même si vous ne parlez pas la langue du pays que vous visitez, rassurez-vous, je me suis déjà retrouvé dans de nombreux endroits où il m'était impossible de communiquer par des mots. Et j'ai toujours fini par trouver de l'aide, des indications, des suggestions importantes et même des fiancés. Certains pensent qu'en voyageant seuls, ils vont marcher dans la rue et se perdre pour toujours. Ben, il suffit d'avoir la carte de l'hôtel dans sa poche et, en cas de nécessité, de prendre un taxi et de la montrer au chauffeur. Septièmement, n'achetez pas trop. Dépensez votre argent dans ce que vous n'aurez pas besoin de transporter. De bonnes pièces de théâtre, des repas au restaurant, des excursions. Aujourd'hui, à l'heure de la globalisation et d'Internet, vous pouvez tout acquérir sans payer de frais d'excédent de bagages. Huitièmement, n'essayez pas de voir le monde en un mois. Mieux vaut passer 4 ou 5 jours dans une ville plutôt que de visiter 5 villes en une semaine. Une ville est une femme fantasque. Elle prend son temps pour se laisser séduire et se dévoiler complètement. Lorsque je suis arrivé à Paris, dans les années 1990, j'étais un auteur encore inconnu. J'étais invité par mon éditeur pour le lancement de L'Alchimiste, qui allait devenir un best-seller en France et m'ouvrir les portes de l'édition française. Je me souviens être arrivé un samedi matin, j'avais tout le week-end libre avant de rencontrer mon éditeur, et j'ai donc décidé de flâner dans les rues. Paris m'est apparu comme une ville vraiment glamour, et j'ai éprouvé le sentiment de ne pas être à ma place. Comme si la beauté du décor me renvoyait à ma propre solitude. Pour essayer d'échapper à la mélancolie, je me suis arrêté dans un café. À ma grande surprise, un couple, attablé à côté de moi, a engagé la conversation, me demandant si c'était ma première visite, etc. Ils étaient vraiment charmants, et en quelques minutes, je me suis senti bienvenu dans cette ville. Ce sentiment ne m'a pas quitté. Chaque fois que je reviens à Paris, je m'y sens comme avec un vieil ami. Neuvièmement, un voyage est une aventure. Henri Miller disait qu'il était bien plus important de découvrir une église dont personne n'avait entendu parler plutôt que d'aller à Rome et de se sentir obligé de visiter la chapelle Sixtine en compagnie de 200 000 touristes qui vous crient dans les oreilles. Allez à la chapelle Sixtine, mais déambulez dans les rues, aventurez-vous dans les impasses, laissez-vous envahir par la liberté d'être à la recherche de quelque chose sans bien savoir quoi, mais en ayant la certitude que vous le trouverez et que cela changera votre vie.
Bien voilà.
Que des bons conseils.
Voilà, quelques conseils.
J'aime bien sa comparaison entre la ville et une femme fantasque.
Voilà. Donc, Paulo Coelho, je ne sais pas si on dit Paulo ou Polo.
Ouais,
Paulo, hein, voilà. Voilà, donc il est né à Rio de Janeiro en 1947. Il est membre de l'Académie brésilienne des lettres. Et en 2007, donc, il a été nommé messager de la paix des Nations Unies. Il a donc écrit une vingtaine de romans, dont le best-seller L'Alchimiste, dont il parle là, puisqu'il était venu à Paris pour ça, qui est traduit quand même dans 73 langues et publié dans 168 pays.
Énorme.
Voilà. Donc, bon, là, on vous fait juste un bref petit topo sur chaque auteur, parce que il y a certains auteurs dont on vous reparlera plus longuement dans d'autres émissions. Mais donc là, on va... Alors maintenant, après Paris, eh bien, nous allons aller à Londres. Mais pas le Londres d'aujourd'hui, le Londres de Virginia Woolf, donc, et du début du siècle dernier, c'est-à-dire du début du XXe siècle. Hein. Voilà. Alors, donc, sous le titre de Londres, ont été réunis pour la première fois en un seul volume tous les écrits de Virginia Woolf, donc elle a consacré à sa ville, donc que ce soit des articles, des essais, des extraits de son journal, des souvenirs, et donc tout ça, c'est paru dans un recueil. Alors, j'ai choisi comme texte « La crue d'Oxford Street », écrit dans la première partie donc, du XXe siècle, mais qui reste toutefois d'une actualité assez surprenante. Voilà. Alors, il y a des choses, bien sûr, qui ont changé.
Les crues sont toujours d'actualité.
mais donc, là, c'est la crue de la population, des magasins, voilà, etc. Donc, je vous laisse. Alors là, c'est une nouvelle lectrice qu'on a. Donc, Marie-Laure, une nouvelle voix dans notre émission.
La crue d'Oxford Street. En bas, sur les docks, on voit les choses dans toute leur crudité, leur corpulence, leur énormité. Ici, à Oxford Street, elles ont été raffinées et transformées. Le tabac humide en énormes barriques a été roulé en d'innombrables cigarettes fines, couchées dans du papier d'argent. La laine, en balles imposantes, a été filée en tricot léger et en bas douillé. La graisse qu'exudait la laine de mouton brut est devenue une crème parfumée pour les peaux délicates. Et ceux qui achètent, ceux qui vendent, ont dû pareillement s'urbaniser. La silhouette humaine, trébuchante, remuante, vêtue de manteaux noirs et de robes de satin, s'est adaptée autant que les produits animaux. Elle ne hisse ni ne remorque plus, mais ouvre des tiroirs d'une main leste, déroule de la soie sur un comptoir, mesure et coupe avec un mètre et des ciseaux. Oxford Street, cela va sans dire, n'est pas l'artère la plus distinguée de Londres. On sait des moralistes qui ont pointé un doigt méprisant vers ceux qui y ont fait leurs achats. Les dandys se rangent avec les moralistes. La mode a ses petits coins secrets derrière Hanover Square, vers Bond Street, où elle se retire discrètement pour accomplir ses rites les plus sublimes. À Oxford Street, il y a trop de bonnes affaires, trop d'occasions, trop d'articles soldés, un shilling et 11 pence, 3 sous, qui, pas plus loin que la semaine dernière, coûtaient 2 shillings et 6 pence. L'achat et la vente y sont trop voyants, trop bruyants. Mais tandis que l'on flâne vers le couchant, il faut dire qu'avec la lumière artificielle, les montagnes de soieries et les omnibus rutilants, c'est un crépuscule éternel qui semble poindre derrière la Marble Arch. Le grand ruban d'Oxford Street qui déroule ses couleurs criardes et tapageuses a de quoi fasciner. On dirait le lit rocailleux d'une rivière au fond duquel les galets sont perpétuellement baignés d'un courant vif. Tout brille, tout scintille. Le premier jour de printemps amène avec lui des brouettes remplies de tulipes, de violettes, de jonquilles, empilées en couches vives. Ces frêles esquifs tourbillonnent imprécis et traversent le flot de la circulation. À une intersection, des magiciens loqueteux jettent des bouts de papier colorés dans des gobelets magiques où ils se transforment en forêts luxuriantes de fleurs aux teintes merveilleuses, un jardin subaquatique. À une autre, ce sont des tortues qui reposent sur une litière herbeuse. Ces créatures, les plus lentes et les plus contemplatives au monde, laissent voir leurs mouvements tranquilles sur un ou deux pieds de trottoir, jalousement protégés des pieds des passants. On en déduit que le désir de l'homme envers la tortue, comme le désir de la phalène envers l'étoile, fait structurellement partie de la nature humaine. Il n'empêche que voir une femme s'arrêter et ajouter une tortue à son chapelet de paquets, c'est un des spectacles les plus fameux qu'il soit donné à l'œil humain de tout temps. À prendre tout cela en compte, les enchères, les brouettes, la camelote, les paillettes, on ne peut pas dire que Oxford Street soit d'un caractère raffiné. C'est un terreau fertile, une serre chaude croît le sensationnel. Des tragédies atroces semblent pousser sur le trottoir. Divorces d'actrices, suicides de millionnaires se produisent ici à une fréquence inconnue des trottoirs plus austères des quartiers résidentiels. Les actualités se renouvellent plus vite qu'en n'importe quel autre coin de Londres. La foule des passants semble aborder l'encre des affiches de presse, en consommer davantage, exiger plus vite qu'ailleurs de nouvelles fournées des dernières éditions. L'esprit devient une tablette cireuse où les impressions viennent se coller et Oxford Street fait rouler dessus son ruban infini de visions, de sons, de mouvements changeants. Les paquets battent et cognent. Les omnibus à moteur viennent frôler le bord du trottoir. Le vacarme d'une fanfare au grand complet diminue jusqu'à n'être plus qu'un mince filet de son. Les bus, les fourgons, les voitures, les brouettes défilent comme un tableau morcelé d'un puzzle. Un bras blanc s'élève. Le puzzle s'écoule à un fort débit, coagule, s'arrête. Le bras blanc retombe, et voilà qu'il défile à nouveau, veiné, tordu, se déversant pêle-mêle dans une course et un désordre incessant. Aussi longtemps que l'on regarde, les pièces du puzzle ne se trouvent jamais réunies. Sur les berges de ce fleuve de roues motrices, nos aristocrates modernes ont bâti des palais exactement comme autrefois les ducs de Somerset et de Northumberland, les comtes de Dorset et de Salisbury, alignés le long du Strand leur demeure majestueuse. Les diverses bâtisses des grandes firmes attestent du courage, de l'esprit d'initiative, de l'audace de leurs fondateurs, de la même façon que les grandes bâtisses de Cavendish et de Percy attestent de qualités similaires dans quelques comtés reculés. C'est des reins de nos marchands que jailliront les Cavendish et les Percy du futur. Oui, les grands seigneurs d'Oxford Street sont aussi magnanimes que n'importe quel duc ou comte qui jetait de l'or ou baillait du pain aux pauvres à sa porte. C'est seulement que leur largesse prenne une autre forme, celle de l'excitation, du spectacle, du divertissement, des vitrines éclairées toute la nuit, des bannières flottant tout le jour. Ils nous fournissent les dernières nouvelles pour rien. La musique s'écoule gratuitement de leur salle des fêtes. Pas besoin de dépenser plus d'un shilling et 11 pence 3 sous pour profiter de l'abri des salles claires et hautes, et du moelleux des tapis empilés, du luxe des ascenseurs, du scintillement des tissus, des tapis, de l'argenterie. Percy et Cavendish ne pourraient faire mieux. Bien sûr, ces dons ne sont pas sans objet. Ils doivent nous pousser à tirer de nos poches aussi libéralement que possible le shilling et non spence. Mais les Percy, les Cavendish, dans leur munificence, n'étaient pas non plus sans l'espoir d'un retour, qu'il s'agisse de l'hommage d'un poète ou du vote d'un fermier. Et les anciens seigneurs, comme les nouveaux, ont très largement contribué à orner et divertir l'humanité. Mais on ne saurait nier que ces palais d'Oxford Street soient des bâtisses plutôt fragiles. On s'y juge plutôt qu'on y demeure. On est bien conscient de marcher sur une étroite planche en bois posée sur des poutrelles d'acier et que le mur externe, nonobstant les ornements floraux taillés dans la pierre, est juste assez épais pour résister au vent. Un vigoureux petit coup donné du bout d'un parapluie pourrait bien infliger des dommages irréparables aux matériaux. Nombreuses sont les petites chaumières, construites pour héberger un fermier, un meunier du temps où la reine Elisabeth était sur le trône, et qui vivront assez longtemps pour voir ses palais redevenir poussière. Les vieux murs des chaumières, avec leurs poutres de chêne et leurs honnêtes briques, assemblées avec compétence en couches bien cimentées, offrent encore une ferme résistance aux vilebrequins et aux forêts qui tentent d'y apporter cette bénédiction moderne qu'est l'électricité. Mais d'un jour à l'autre, on pourrait voir Oxford Street s'évanouir au seul coup de pioche d'un ouvrier, se tenant en équilibre précaire sur un pinacle poussiéreux pour abattre des murs et des façades aussi facilement que s'ils étaient faits de carton jaune et de glaçage en sucre. Alors à nouveau, les moralistes pointent du doigt la scène avec mépris. Cette minceur, cette pierre de papier, cette brique de poudre, tout cela ne fait que refléter, disent-ils, le manque de sérieux, l'ostentation, la hâte, l'irresponsabilité de notre temps. Mais peut-être leur mépris est-il aussi mal à propos que nous le serions si nous exigions du lys qu'il soit coulé en bronze, de la marguerite qu'elle ait des pétales d'un émail impérissable. Le charme de la Londres moderne, c'est qu'elle n'est pas construite pour durer, elle est construite pour passer. Sa transparence vitreuse, ses vagues de plâtre colorées qui enflent, tout cela donne un plaisir autre et remplit un but autre que celui qui avait été désiré et visé par les bâtisseurs d'antan et par leurs mécènes, la noblesse d'Angleterre. Leur orgueil requérait l'illusion de la permanence. Le nôtre, au contraire, semble se délecter à prouver que nous sommes capables de fabriquer des pierres et des briques aussi éphémères que nos propres désirs. Ce n'est pas pour nos descendants que nous bâtissons. Eux qui vivront peut-être dans les nuages ou sous la terre, c'est pour nous et pour nos propres besoins. Nous abattons et reconstruisons de la même manière que nous nous attendons à être abattus et reconstruits nous-mêmes. Sous cette impulsion prospère la création et la fertilité. Ainsi sommes-nous poussés à la découverte, prêts à l'invention. Les palais d'Oxford Street ignorent ce qui semblait bon aux Grecs, aux Élisabétains, aux nobles du XVIIIe siècle. Ils ont une conscience aiguë de ce que, s'ils ne sont pas capables d'inventer une architecture qui mette parfaitement en valeur le nécessaire de voyage, la robe de Paris, les bas bon marché et le pot de sel de bain, alors leurs palais, leurs villas, leurs automobiles et les petits pavillons à Credon ou à Surbiton, où vivent les employés de leurs magasins, pas si mal après tout, avec gramophone et postes de radio et un peu d'argent à dépenser dans les cinémas. Tout cela sera réduit à néant. Alors ils étendent les pierres sur des distances fantastiques. Ils mêlent dans une confusion sauvage les styles grecs, égyptiens, italiens, américains et essaient audacieusement d'obtenir un air de luxe et d'opulence. Dans leurs efforts pour convaincre la foule qui signe une beauté infinie, toujours jeune, toujours neuve, très bon marché à la portée de tous, jaillit chaque jour d'un puits jamais sec. Oxford Street aborde la solidité du temps, de la solidité, de la durée. C'est pourquoi, si le moraliste choisit cette artère-là pour y faire sa promenade de l'après-midi, il devra mettre sa pensée à sa fréquence, afin d'y percevoir certaines voix étranges et incongrues. On perçoit leurs complaintes au-dessus du tintamarre des faucons et des omnibus. « Dieu sait, dit le vendeur de tortues, comme mon bras me fait mal. J'ai peu de chance d'arriver à vendre une tortue, mais courage ! Un acheteur pourrait se présenter. Ma couche ce soir en dépend, alors je dois continuer. » Aussi lentement que la police me l'impose, transportant mes tortues d'un bout à l'autre d'Oxford Street de l'aube au crépuscule. C'est vrai, dit le grand marchand, je ne songe guère à élever le goût des masses à une sensibilité esthétique supérieure, de réfléchir à la façon dont je peux exposer mes produits avec le moins de pertes et la plus grande efficacité possible. Voilà qui fait travailler mes méninges. Les dragons verts, si on les met sur des colonnes corinthiennes, cela pourrait aider. Voyons voir. Je veux bien admettre, dit la femme de la classe moyenne, que je traîne, que je regarde, que je troque, que je négocie à la baisse, que j'examine panier après panier d'un vendu à chaque heure du jour. Je sais que mes yeux brillent de façon inconvenante et que je prends et tâte avec une avidité répugnante. Mais mon mari est un petit employé de banque. Je n'ai que 15 livres par an pour m'habiller. Alors je viens ici pour traîner, pour flâner et avoir l'air, si je peux, aussi bien habillée que mes voisines. « Je suis une voleuse, dit une femme de cette vocation, et une dame de petite vertu perd sur le marché. Mais il faut un sacré courage pour dérober un sac à main sur un comptoir, quand un client regarde ailleurs. Et si ça se trouve, il n'y aura dedans que des lunettes ou de vieux tickets de bus. Alors allons-y. » C'est 1000 voix pareilles qui s'élèvent perpétuellement dans Oxford Street. Toutes sont nerveuses, toutes sont vraies, toutes sont arrachées à leur locuteur par l'angoisse qu'il y a à gagner sa vie, à trouver une couche, à se maintenir à flot d'une manière ou d'une autre au milieu de cette vague bondissante, négligente et implacable de la rue. Et même le moraliste, lequel est-on bien forcé d'imaginer, puisqu'il peut se permettre de passer l'après-midi à rêver, est un homme avec de l'argent sur son compte en banque. Même le moraliste doit admettre que cette rue vulgaire, tapageuse, animée, nous rappelle que la vie est un combat, que tout immeuble s'effondre, que tout ce qui s'expose est vanité. De quoi l'on peut conclure? Mais avant que quelque habile boutiquier ne se saisisse de l'idée et n'ouvre des cellules pour penseurs solitaires, tendues de velours vert, fournies avec lucioles automatiques et une pincée d'authentique phalène à tête de mort pour favoriser la méditation et la réflexion, on essaiera en vain d'aboutir à quelque conclusion, que ce soit à Oxford Street.
Voilà, donc est-ce que ça a pas tant changé que ça, Oxford Street ?
Ben non, ça donne envie d'y retourner, voir un petit peu tout ça. Hein.
Voilà, on a tous été faire un tour. En fait, c'est la rue commerçante la plus grande au monde.
Oui, c'est ce que tu m'apprenais, je l'avais oublié ou je ne savais pas.
Voilà, donc on va vous parler un petit peu de Virginia Woolf quand même. Donc elle est née le 25 janvier 1882. À Londres, donc, est décédée le 28 mars 1941 à Rodmell, donc c'est dans la banlieue de Londres. Et donc, c'est l'une des principales écrivaines modernistes du XXe siècle. Alors, dans l'entre-deux-guerres, elle est une figure marquante hein, de la société littéraire londonienne et un membre central du Bloomsbury Group, qui réunit des écrivains, artistes et philosophes anglais. Alors, les romans comme Mrs. Dalloway, écrit en 1925, La promenade au phare en 1927, Orlando en 1928 et Les vagues en 1937, ainsi que l'essai féministe Une chambre à soi, demeurent parmi ses écrits les plus célèbres. Alors en 1941, donc à l'âge de 59 ans, elle se suicide par noyade dans l'Ouse, près de Monkhouse, donc le village de Rodmell où elle vivait avec son mari Leonard Woolf. Alors, Leonard Woolf, lui, il était éditeur, imprimeur.
C'est ça. Elle se croyait voilà. folle, hein. C'est pour ça qu'elle a...
Voilà, mais elle avait des migraines épouvantables et... Enfin, voilà, elle avait un peu des petits problèmes.
Elle a eu une énorme correspondance avec, tu sais, une Vita Sackville-West, sur laquelle on avait fait
une émission.
Une émission. Elle lui a écrit 450 lettres d'amour.
Ben oui, ah, voilà, quand on aime, hein, on ne compte pas. ça. Voilà. Donc voilà, c'était une femme très libre, quoi, déjà pour son époque.
Moderne.
Voilà, très...
Elle disait « Je sens dans mes doigts le poids des mots comme des pierres. »
Ah oui. Hein. Bon, donc c'est un peu dur à supporter, alors. donc voilà, donc elle n'a jamais écrit de nouvelles, hein, mais donc à part ses essais, là, donc on avait dit un essai ou des extraits, des articles. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est après avoir traversé la Manche, bien on va traverser l'Atlantique pour écouter un court extrait d'une nouvelle qui s'appelle « Celui qui passe » de Carson McCullers. Alors, qui nous présente donc un voyageur en transit à New York. Et voilà, on va écouter cet extrait. Et donc, c'est juste le début de la nouvelle, hein, parce qu'après, ça part dans d'autres choses. Et,
ça se complique. Bon,
voilà. Donc, on vous propose d'écouter ça.
Celui qui passe. La frange crépusculaire qui sépare sommeil et réveil était romaine ce matin-là. Fontaine jaillissante, étroite rue bordée d'arcades, ville d'or aux bourgeons éclatés, vieille pierre usée par le temps. Il lui arrivait parfois, dans cette demi-inconscience, de se retrouver à Paris, ou dans l'Allemagne en ruine d'après-guerre, ou dans un hôtel des sports d'hiver en Suisse. Parfois même, partant pour la chasse, au petit jour, à travers les champs friches de Géorgie. Ce matin-là, dans l'univers des rêves où les années se confondent, c'était Rome. John Ferris finit par s'éveiller dans la chambre d'un hôtel de New York. Il avait le sentiment que quelque chose de désagréable l'attendait. Quoi ? Il n'en savait rien. Noyé dans la routine des obligations matinales, ce sentiment réapparut lorsqu'il descendit, après s'être habillé. C'était un matin d'automne, sans nuages. Les gratte-ciel, couleur pastel, découpaient sur le soleil timide de longues bandes verticales. Ferris entra dans le drugstore voisin et s'installa au bout de la salle, contre la vitre qui bordait le trottoir. Il commanda un petit déjeuner américain, œufs brouillés et saucisses. Il était revenu de Paris la semaine précédente pour les obsèques de son père, célébrées en Géorgie dans sa ville natale. En apprenant cette mort, il avait su que sa jeunesse était finie. Il commençait à perdre ses cheveux, on voyait battre ses veines contre ses tempes dégarnies. Son corps mince s'arrondissait déjà d'une légère brioche. Ferris avait eu pour son père une véritable dévotion. Il lui avait été attaché par un lien extraordinairement étroit qui s'était peu à peu relâché avec les années. Cette mort, attendue depuis si longtemps, l'avait pourtant bouleversé de façon imprévue. Il s'était arrangé pour rester avec sa mère et ses frères jusqu'au dernier moment. Son avion pour Paris s'envolait le lendemain matin. Ferris sortit de sa poche son carnet d'adresses pour vérifier un numéro et le feuilleta avec une attention de plus en plus grande. Nom, adresse de New York, de plusieurs villes d'Europe, quelques-unes déjà effacées, de l'État du Sud où il était né, d'autres griffonnées un soir d'ivresse, il dit. Betty Wills, un amour très bref, aujourd'hui marié. Charlie Williams, blessé dans la forêt de Hodgen, sans nouvelles depuis. Cher vieux Williams, vivant ou mort ? Don Walker, devenu gros ponte à la télévision en train de faire fortune. Henry Green s'était laissé glisser sur une mauvaise pente après la guerre, en sanatorium aujourd'hui, paraît-il. Cozy Hall, mort, avait-il entendu dire. Cozy l'étourdi, Cozy la rieuse. Comment croire que cette idiote ait pu mourir, elle aussi ? En refermant son carnet d'adresse, il eut un étrange sentiment de hasard, éphémère, presque d'effroi. Et brusquement, il sursauta. De l'autre côté de la vitre, sur le trottoir, il venait d'apercevoir son ex-femme. Elle passa lentement près de lui. Il ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si fort, ni pourquoi elle laissait derrière elle un tel sillage de grâce et d'insouciance. Il paya rapidement et sortit. Elisabeth avait atteint l'angle de la rue et attendait pour traverser la 5e avenue. Il avait envie de lui parler et se hâta de la rejoindre. Les feux changèrent et elle traversa. Il traversa à son tour. Il aurait facilement pu la rattraper, mais de façon inexplicable, il préféra rester en arrière. Ses beaux cheveux bruns ondulaient à peine. En la regardant marcher, il se souvint d'une remarque de son père disant qu'Elisabeth avait un maintien superbe. Elle tourna dans la rue suivante. Bien qu'ayant renoncé à la rejoindre, il tourna derrière elle. Il cherchait à analyser le trouble qu'il avait ressenti en l'apercevant. Mains moites, cœur battant à se rompre. 8 ans qu'il ne s'était vu. Il savait qu'elle était remariée et qu'il y avait des enfants. Depuis plusieurs années, il ne pensait plus jamais à elle. Mais tout de suite après le divorce, il avait été comme anéanti de l'avoir perdue. Puis le temps avait joué son rôle de tranquillisant et il avait recommencé à aimer à 2 reprises. En ce moment, c'était Jeannine. Son amour pour son ex-femme était donc mort depuis longtemps, il en était certain. Alors pourquoi ce tremblement de tout le corps, cette agitation de l'esprit? Il savait seulement que son cœur ombragé contrastait étrangement avec cette claire et simple matinée d'automne. Il tourna le dos, brusquement et à grands pas, courant presque, regagna son hôtel. Il n'était pas encore 11 heures, mais Ferry se fit servir un verre et s'enfonça dans un fauteuil, comme un homme épuisé, serrant contre lui son bourbon coupé d'eau. L'avion pour Paris partait le lendemain. Il avait toute une journée devant lui. Il récapitula ce qu'il avait à faire. Porter ses bagages à Air France, déjeuner avec son patron, acheter des chaussures, un manteau, quoi d'autre? N'avait-il pas autre chose à faire? Il vida son verre et ouvrit l'annuaire.
Bon, voilà, donc un petit extrait de Celui qui passe. Donc, on va vous parler de Carson McCullers, qui est né en 1917 en Géorgie, donc dans le sud des États-Unis. Elle va rencontrer un succès fulgurant dès l'âge de 23 ans avec la publication de son premier roman qui s'appelle Le cœur est un chasseur solitaire. Elle est aussi considérée comme l'un des plus grands écrivains américains du XXe siècle. Et le recueil de nouvelles dont est extrait le texte, là, s'appelle « La balade du café triste ». Et on va bientôt lui consacrer une émission entièrement pour elle. Voilà.
Donc, on ne va pas tout dévoiler maintenant.
Voilà,
mais
c'est
encore une femme atypique pour l'époque, alcoolisme, homosexualité, encore une qui ne rentrait pas tout à fait dans le rang.
Dans les cases. Et qui était une grande amie aussi de Truman Capote. Et dont on va aussi faire une émission. On a déjà enregistré quelques petites choses. Voilà. Et ça, c'est en préparation pour la rentrée.
Voilà. À suivre.
On vous a fait un beau programme pour la rentrée. Alors là, on va rester sur le continent américain en compagnie de Patti Smith pour un voyage à Mexico sur les traces de Frida Kahlo. Alors, c'est un extrait qui est amputé de son livre « Mr. Crane », donc qui n'est pas réellement des nouvelles, mais bon, c'est des chapitres où elle raconte un peu son vagabondage.
Chapitre autonome.
Voilà, c'est ça. Donc, alors là, en plus, c'est un peu délicat parce que je me suis permis de... parce qu'il y a beaucoup de digression dans son écrit, et donc je me suis permis de recentrer sur son voyage. Donc vous m'excuserez pour ceux qui connaissent le texte déjà d'avoir un peu modifié.
Tu te permets des.
Donc je m'en excuse auprès de Patti Smith. Alors, on va l'écouter. Alors, donc, le chapitre s'appelle « La roue de la fortune » et donc dans le livre « Mr. Train ».
Une lettre est arrivée. La directrice de la Casa Azul, la maison natale et la dernière demeure de Frida Kahlo, me demandait de prononcer un discours sur la vie et l'œuvre révolutionnaire de l'artiste. En échange, j'aurai l'autorisation de photographier des affaires lui ayant appartenu, les talismans de sa vie. Il était temps de repartir en voyage, de consentir au destin. Car, certes, j'aspirais à la solitude, mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de prononcer quelques mots dans le jardin où, jeune fille, je rêvais d'entrer. J'allais pénétrer dans la maison qu'avaient habité Frida et Diego Rivera. J'allais arpenter des pièces que je n'avais vues que dans des livres. Je serai bientôt de retour au Mexique. J'ai découvert la Casa Azul dans la vie fabuleuse de Diego Rivera, un cadeau de ma mère pour mes 16 ans. Ce livre envoûtant qui a alimenté chez moi le désir croissant de m'immerger dans l'art. Je rêvais de faire le voyage jusqu'au Mexique, de goûter à cette révolution, de fouler le sol de leur patrie et de prier devant les arbres peuplés de leurs saints mystérieux. J'ai relu la lettre avec un enthousiasme croissant. J'ai songé à la tâche qui se présentait et à moi-même. Plus jeune, quand j'avais fait ce voyage en 1971, j'avais 20 et quelques années. J'avais économisé et acheté un billet pour Mexico. Je devais changer d'avion à Los Angeles. Je me souviens d'avoir vu un panneau d'affichage avec une femme crucifiée sur un poteau télégraphique. L.A. Woman, le single des Doors, Rider on the Storm, passait à la radio. À l'époque, je n'avais pas reçu de lettres comme celle-ci. Je n'avais pas de projet concret, mais j'avais une mission, et cela me suffisait amplement. Je voulais écrire un livre intitulé « Java Head ». William Burroughs m'avait dit que le meilleur café au monde poussait dans les montagnes autour de Veracruz, et j'étais bien décidée à y goûter. Arrivée à Mexico, je me suis immédiatement rendue à la gare où j'ai acheté un billet aller-retour. Le train de nuit partait 7 heures plus tard. J'ai fourré dans une besace en lin un carnet, un stylo bic, mon anthologie d'Artaud, tachée d'encre et un petit appareil Minox, et j'ai laissé le reste à la consigne automatique. Après avoir changé de l'argent, j'ai poussé la porte de la cafétéria qui se trouvait dans la rue en face du désormais défunt hôtel Ortega et j'ai commandé un bol de ragoût de morue. Je vois encore les arêtes flotter dans le bouillon safran et la longue arête qui s'est coincée dans ma gorge. J'étais seule à ma table, en train de m'étouffer. J'ai fini par réussir à l'enlever avec le pouce et l'index, sans vomir ni attirer l'attention. J'ai enveloppé l'arête dans une serviette en papier, je l'ai fourrée dans ma poche, puis j'ai fait un signe au serveur et réglé l'addition. Je me suis remise de mes émotions avant de monter dans un bus à destination de Cocoyans, dans le sud-ouest de la ville, l'adresse de la Casa Azul dans ma poche. C'était une journée magnifique et j'avais hâte d'arriver. Mais une fois sur place, j'ai constaté qu'elle était fermée pour rénovation complète. Je suis restée hébétée devant les grands murs bleus. Il n'y avait rien à faire, personne à qui parlementer. Ce jour-là, je ne suis pas entrée dans la Casa Azul. J'ai traversé quelques rues jusqu'à la maison où Trotsky avait été assassiné. Un tel acte d'intime trahison aux yeux de Genet aurait élevé l'assassin au statut de saint. J'ai allumé un cierge à l'église Saint-Jean-Baptiste et je me suis assise sur un banc, mains jointes, en tâtant de temps en temps la gorge à l'endroit où l'arête m'avait blessée. Je suis revenue à la gare et un employé des wagons-lits m'a laissé monter en avance dans le train. J'avais un petit compartiment pour moi toute seule. Sur le siège en bois qui se repliait, j'ai posé une écharpe multicolore avant de placer mon livre d'Artaud en équilibre contre le miroir au teint écaillé. J'étais vraiment heureuse. En route pour Veracruz, un haut lieu du commerce du café au Mexique. C'est là, imaginais-je, que j'écrirai une méditation post-bit sur ma substance de prédilection. Le voyage en train s'est déroulé sans encombre, des effets spéciaux à la Alfred Hitchcock. J'ai fait le point sur mes projets. Je ne désirais faire aucune expérience majeure, hormis trouver un logement correct et une tasse de kawa parfait. Je pouvais boire jusqu'à 14 tasses sans mettre en péril mon sommeil. Le premier hôtel sur lequel je suis tombée était impeccable. Hôtel International. J'ai eu droit à une chambre toute blanche avec un lavabo, un ventilateur au plafond et une fenêtre qui donnait sur la grande place. J'ai arraché de mon livre une photo d'Artaud au Mexique que j'ai placée sur le manteau de la cheminée en plâtre, derrière une chandelle votive. Il avait adoré le Mexique et j'étais persuadée qu'il apprécierait d'y revenir. Après un bref repos, j'ai compté mon argent, j'ai pris ce dont j'avais besoin et fourré le reste dans une chaussette en coton tissée à la main, ornée d'une minuscule rose brodée à la hauteur de la cheville. Je suis partie dans la rue et j'ai choisi un banc bien situé pour sentir l'ambiance. J'ai remarqué que des hommes émergeaient périodiquement de l'un des deux hôtels et prenaient tous la même direction. En milieu de matinée, j'en ai discrètement suivi un jusqu'à une ruelle sinueuse où se trouvait un café qui ne payait pas de mine mais semblait l'épicentre de l'activité liée au café. Ce n'était pas un véritable bistrot mais un authentique négociant en café. Il n'y avait pas de porte. Le sol en damier noir et blanc était recouvert de sciure. Des sacs de toile remplis de grains de café étaient alignés le long du mur. Il y avait quelques petites tables mais tout le monde était debout. Aucune femme à l'intérieur. Aucune femme nulle part. Alors, j'ai poursuivi ma promenade sans m'arrêter.
storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And packed we're out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Je plaçais à la hâte l'oiseau à ressort dans ma petite valise en métal. Ma liste exhaustive. Passeport, blouson noir, salopette, sous-vêtements, 4 t-shirts, 6 paires de chaussettes avec l'abeille, pellicule Polaroid, appareil Land 250, bonnet noir, flacon d'arnica, moleskine, papier gadrier, croix éthiopienne. J'ai sorti mon jeu de tarot de son étui en chamois élimé et tiré une carte, une petite manie avant de voyager. C'était celle de la destinée. Je suis restée assise à regarder fixement la grande roue. Très bien, je me suis dit, ça ira. Ma voiture est arrivée. J'ai verrouillé ma valise, empoché mon passeport et je me suis installée sur la banquette arrière. Il y avait beaucoup de circulation et nous avons dû attendre avant de nous engager dans le Holland Tunnel. Puis je me suis assoupie et m'est alors venu un rêve. J'étais dans une forêt et les arbres étaient chargés d'ornements sacrés qui scintillaient au soleil. Ils étaient trop hauts pour que je les atteigne, alors je les secouais à l'aide d'une longue perche en bois qui se trouvait justement posée dans l'herbe. Quand j'enfonçais la perche dans les branches feuillues, une pluie de minuscules mains argentées tombait pour atterrir sur mes chaussures. C'étaient les Richelieu éraflés que je portais à l'école primaire, et quand je me penchais pour ramasser les mains, j'apercevais une chenille noire qui remontait le long de ma chaussette. J'étais désorientée quand la voiture s'est garée au terminal A. « C'est là que je vais » ai-je demandé. Le chauffeur a grommelé je ne sais quoi et je suis descendue, prenant soin de ne pas oublier mon bonnet et je suis entrée dans le terminal. J'avais été déposée au mauvais endroit et j'ai dû me faufiler à contresens parmi des centaines de personnes qui allaient je ne sais où pour trouver le bon comptoir. La fille au comptoir a incité pour que j'utilise la borne. J'ignore où j'étais durant la décennie précédente lorsque le concept de borne s'est imposé dans les arrêts aux gares. Je veux que quelqu'un me remette en main propre ma carte d'embarquement, mais elle a insisté pour que je tape moi-même les informations nécessaires sur l'écran de cette satanée borne. Il a fallu que je fouille dans mon sac à la recherche de mes lunettes de lecture, ensuite j'ai répondu à quelques questions, scanné mon passeport, puis la machine a suggéré que, moyennant 108$, je multiplie par 3 mes miles. J'ai appuyé sur la touche « Non » et l'écran s'est figé. Il a fallu que j'explique ça à la fille. Elle m'a dit de continuer à appuyer, puis elle m'a conseillé d'utiliser une autre borne. Je commençais à m'impatienter, la carte d'embarquement était en fait coincée et la fille a été obligée de tripatouiller avec un stylo Friendly Skies pour la faire sortir. D'un air triomphant, elle m'a tendu la carte froissée comme une laitue morte. Je me suis avancée vers le contrôle de la sécurité, j'ai sorti mon ordinateur de son sac, enlevé mon bonnet, ma montre et mes bottes, les ai placés dans un bac avec ma trousse contenant du dentifrice, de la crème hydratante 30 à la rose et un flacon d'essence végétale. Et j'ai franchi le portillon détecteur de métal. Puis j'ai rassemblé mes affaires avant d'embarquer dans l'avion à destination de Mexico. Nous avons attendu sur la piste de décollage pendant environ une heure. La chanson Shrine Boat tournait en boucle dans ma tête. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi étais-je montée sur mes grands chevaux à l'enregistrement des bagages? Pourquoi avais-je absolument voulu que ce soit la fille qui me donne ma carte d'embarquement? Pourquoi ne pouvais-je pas me mettre au diapason et faire ce qu'il fallait? Nous sommes au 21e siècle. On ne fait plus les choses comme avant. Nous étions sur les points de décoller. Je me suis fait réprimander car je n'avais pas attaché ma ceinture. J'avais oublié de dissimuler ma désobéissance en posant mon manteau sur mes genoux. Je déteste être confinée. Surtout lorsque c'est pour mon bien. À Mexico, une voiture m'a conduite dans mon quartier. Je me suis installée à l'hôtel, dans une chambre au premier étage, qui donnait sur un petit parc. Il y avait une grande fenêtre dans la salle de bain, et je me suis rendu compte que les gens que je voyais d'en haut pouvaient me voir d'en bas. J'ai pris un déjeuner tardif, pressé de manger mexicain, mais le menu de l'hôtel était dominé par des plats japonais. Cela a brouillé mon sens du lieu, tout en l'épousant étrangement. Lire Murakami dans un hôtel mexicain spécialisé dans le sushi. J'ai opté pour des tacos de crevettes avec un wasabi et un petit verre de tequila. Puis, en sortant dans la rue, j'ai remarqué que j'étais sur Veracruz Avenue, ce qui m'a donné espoir de trouver un bon café. En traînant dans les parages, je suis passée devant une vitrine remplie de mains en plâtre couleur chair. Je me suis dit que je devais être au bon endroit, si ce n'est que les choses semblaient légèrement décalées, comme une image de Mandrake le magicien dans les comics des journaux du dimanche. Le crépuscule approchait, j'ai parcouru les rues ombragées et suis passée devant des camionnettes à tacos et des marchands de journaux qui vendaient des magazines de catch, des fleurs et des billets de loterie. J'étais fatiguée, mais je me suis tout de même arrêtée dans le parc de l'autre côté de Veracruz Avenue. Un cornu au pelage jaune, de taille moyenne, a échappé à la vigilance de son maître et m'a gentiment sauté dessus. J'ai senti que ses yeux marron foncé pénétraient mon être. Son maître s'est empressé de le rattraper, mais le chien n'a pas cessé de tirer sur sa laisse pour me suivre du regard. Comme il est facile, me suis-je dit, de tomber amoureux d'un animal. J'ai soudain eu un coup de mou. J'étais debout depuis 5 heures du matin. Je suis retournée à ma chambre, qui avait été faite en mon absence. Mes vêtements étaient impeccablement pliés et mes chaussettes sales trempées dans le lavabo. Je me suis affalée sur le lit tout habillée. J'ai repensé au chien jaune et me suis demandé si je le reverrais. J'ai fermé les yeux et senti que lentement je m'assoupissais. Une voix déformée par un mégaphone m'a ramenée à la conscience. Des mots désincarnés, portés par le vent, qui atterrissaient sur le rebord de ma fenêtre comme un pigeon voyageur dérangé. Il était minuit passé, drôle d'heure pour parler dans un mégaphone. Je me suis réveillée tard et j'ai dû me dépêcher car j'étais invitée à l'ambassade américaine. Nous avons bu du café tiède et avons engagé une discussion culturelle qui fut un demi-succès. J'avais faim, j'ai déjeuné ce que l'on pourrait approximativement qualifier de huevos rancheros dans un endroit qui s'appelait Café Bohemia. Un bol de tortilla chips molle, des œufs au plat et de la sauce piquante verte. Mais j'ai mangé. Le café était tiède, avec un arrière-coup chocolaté. J'ai pêché dans mes pauvres notions d'espagnol les mots « más caliente ». Le jeune serveur m'a fait un sourire avant de m'apporter un autre café, bien chaud cette fois-ci.
Shrimp boats is a coming. There's dancing tonight. Why don't you hurry, hurry, hurry home? Why don't you hurry, hurry, hurry home? Shrimp boats is a coming. There's dancing tonight. They go to sea. And their woman folk wave their goodbye. There they go.
L'oiseau à ressort était posé sur le lit à côté de moi, mais je ne l'ai pas ouvert. À la place, je réfléchissais aux photographies que j'allais prendre à Kyowasan. Je me suis endormie aussitôt et j'ai rêvé que je possédais une coordination parfaite et d'excellents réflexes. Soudain, je me suis éveillée, incapable de bouger. Mes boyaux explosaient, du vomi jaillissait sur mon lit, accompagné d'une terrible migraine qui me paralysait. Incapable de me lever, je suis restée allongée. Instinctivement, j'ai cherché à tâtons mes lunettes. Heureusement, elles n'étaient pas cassées. Aux premières lueurs de l'aube, j'ai réussi à attraper le téléphone pour appeler la direction, signaler que j'étais très malade et que j'avais besoin d'aide. Une femme de chambre est montée et a appelé pour qu'on apporte des médicaments. Elle m'a aidée à me déshabiller et à me laver. Elle a astiqué la salle de bain et changé mes draps. Je débordais de gratitude pour cette femme. Elle a chantonné en rassant mes vêtements souillés, les a suspendus au-dessus du rebord de la fenêtre. Ça continuait à cogner dans ma tête. Je me cramponnais à sa main. Son visage souriant planait au-dessus du mien et je me suis sentie sombrer dans un sommeil profond. Au matin, j'ai fait le point de mon état de santé. Le pire semblait passer, mais je me sentais faible, déshydratée et le mal de tête avait migré vers la base de mon crâne. La voiture est arrivée pour m'emmener à la Casa Azul et j'ai espéré que la migraine me laisserait un répit, le temps que je fasse ce que j'avais à faire. Quand la directrice m'a accueillie, j'ai pensé à moi, jeune fille, debout devant cette porte bleue qui ne s'ouvrait pas. La Casa Azul a beau être aujourd'hui un musée, le lieu maintient l'atmosphère vivante des deux grands artistes. Dans la salle de travail, tout avait été préparé pour moi. Les robes de Frida Kahlo et les corsets de cuir étaient disposés sur un tissu blanc. Ses fioles de médicaments sur une table, ses béquilles contre le mur. Je me suis sentie soudain chancelante et nauséeuse. Cependant, j'ai pu prendre quelques photographies. J'ai fait vite dans la faible lumière, glissant dans ma poche les polaroïdes sans enlever le film protecteur. On m'a conduite dans la chambre de Frida. Il y avait au-dessus de son oreiller des papillons épinglés qu'elle pouvait contempler en étant allongée sur son lit. Il s'agissait d'un cadeau du sculpteur Isamu Noguchi, qui souhaitait qu'elle puisse voir quelque chose de très beau après avoir perdu sa jambe. J'ai pris une photo du lit où elle avait beaucoup souffert. Je n'ai pu cacher plus longtemps mon état de santé. La directrice m'a donné un verre d'eau. Je me suis assise dans le jardin, la tête entre les mains. J'étais sur le point de défaillir. Après discussion avec ses collègues, elle a insisté pour que je me repose dans la chambre de Diego. J'ai voulu protester, mais j'étais incapable de parler. C'était un modeste lit de bois avec un dessus de lit blanc. J'ai posé par terre mon appareil photo et le petit tas d'images. Deux femmes ont punaisé un voile de mousseline à l'entrée de sa chambre. Je me suis penchée en avant et j'ai ôté le papier de chacune des photos, mais sans pouvoir les regarder. Allongée, j'ai pensé à Frida. Je la sentais proche. Je sentais son courage face à la souffrance, associée à son enthousiasme révolutionnaire. Elle et Diego furent mes guides secrets lorsque j'avais 16 ans. Je me faisais des tresses comme Frida, portais un chapeau de paille comme Diego, et maintenant j'avais touché ses robes et je me retrouvais dans le lit de Diego. Une des femmes est entrée et m'a couverte d'un châle. La chambre était plongée dans une obscurité naturelle et je me suis endormie. La directrice m'a réveillée en douceur, le visage inquiet. « Les gens vont bientôt arriver. »« Ne vous en faites pas, ai-je dit. Maintenant, je vais bien. Mais il va me falloir une chaise. » Je me suis levée, j'ai enfilé mes bottes et rassemblé mes photos. La forme géométrique des béquilles de Frida, son lit et le fantôme d'un escalier. Une atmosphère de maladie rayonnait en chaque chose. Ce soir-là, j'ai pris place devant presque 200 invités dans le jardin. J'aurais bien du mal à dire de quoi j'ai parlé, mais à la fin, j'ai chanté pour eux, comme j'avais chanté pour les oiseaux sur le rebord de la fenêtre. Il s'agissait d'une chanson qui m'était venue alors que j'étais allongée dans le lit de Diego, inspirée des papillons de Noguchi avait offert à Frida. J'ai vu des larmes couler sur le visage de la directrice et des femmes qui s'étaient occupées de moi avec tant de gentillesse. Des visages que j'ai oubliés. Tard ce soir-là, il y a eu une fête dans le parc, en face de mon hôtel. Mon mal de tête avait complètement disparu. J'ai fait ma valise, puis regardé par la fenêtre. Les arbres étaient tendus de minuscules loupiottes de Noël, et pourtant, nous n'étions que le 7 mai. Je suis descendue au bar, et j'ai bu un petit verre d'une tequila très jeune. Le bar était vide, car presque tout le monde était dans le parc. Je suis restée assise un long moment. Le barman m'a resservi. La tequila était légère, comme du jus de fleurs. J'ai fermé les yeux et vu un train vert avec un M à l'intérieur d'un cercle. Le même vert décoloré que le dos d'une mante religieuse.
La noche ira sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango. Nuestra herida, un acordeón sangriento, nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanez y luz en nuestra alcoba.
Bon, on aimerait bien chanter comme ça, enfin c'est... moi, mais bon.
Bah, moi, j'aurais du mal,
raté,
mais.
C'est raté.
C'est très beau quand même.
Une autre... Dans une autre vie, peut-être.
C'est ça, on peut se dire ça. Bon, en tout cas, dans ton invitation au voyage, il y a aussi les aléas du voyage.
Oui, oui, ça fait partie. Voilà, les petits microbes, virus qu'on peut attraper. Donc, pour parler de Patti Smith, donc c'est quand même une artiste engagée. Hein. Elle est née à Chicago en 1946 et elle est issue d'une famille modeste. Elle va quitter donc le New Jersey pour partir travailler à New York en 67, voilà. Et puis, elle va rencontrer donc le photographe Robert Mapplethorpe, je ne sais pas si je prononce bien, sûrement pas, voilà. Et elle va emménager avec lui au Chelsea Hotel. Et puis, donc elle est habituée à des clubs punk et rock du moment, parmi lesquels le célèbre... CBGB, voilà.
Ouais, bien. CBGB, voilà. C'est Country Bluegrass Blue and Other Music for Uplifting Gourmandizer. Pour les gourmands distingués.
Alors là, tu ne veux pas, attends.
Alors là.
Voilà, donc elle va créer ensuite donc, le Patti Smith Group, dont son premier single va paraître en 1974. Suivront d'autres albums hein, comme Horses, Radio Ethiopia, Easter. Avec coécrit avec Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen, ouais.
Voilà, c'est ça. Alors en 80, elle va épouser Fred Sonic Smith, guitariste du groupe MC5 ou 5. Voilà.
Oui, c'était un précurseur du punk rock et du hard rock.
Voilà. Donc elle va mettre entre parenthèses sa vie d'artiste pour se consacrer à ses enfants. Et puis. Et en 88, elle va faire un album avec son mari, Dreams of Life, qui va lui permettre de renouer avec la scène. Voilà, alors c'est une grande admiratrice hein, des textes de Rimbaud et de William Blake, dont elle donne des lectures d'ailleurs. Et elle va recevoir la médaille de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2005 et va rentrer au Rock and Roll Hall of Fame en 2007. Alors elle va produire d'autres albums ensuite. Et puis, elle va faire un premier récit autobiographique, Just Kids, en 2010, qui a été d'ailleurs récompensé par le National Book Award. Et puis, ensuite, elle va poursuivre son œuvre autobiographique et donc toujours un peu bercée de mélancolie dans ce voyage initiatique et méditatif et poétique et Mr. Train, dont on a extrait le texte là, qu'on vous a...
Oui, elle a beaucoup produit et dans des domaines divers, finalement. Elle est très polyvalente.
Voilà. Donc, c'est pas des nouvelles, mais...
Mais quand même.
Mais dans notre initiation, invitation au voyage, eh bien, je trouvais qu'elle était, voilà...
Bienvenue. Ouais. Alors, en 18 stations, Patti Smith nous entraîne dans un voyage qui traverse le paysage de ses aspirations et de son inspiration, par le prisme des cafés et autres lieux qu'elle a visités dans le monde, de la Casa Azul de Frida Kahlo, dont on entendait parler tout à l'heure, aux tombes de Genet, de Rimbaud, de Mishima. Elle trace un itinéraire flottant au cœur de ses références et de sa propre vie. Elle oscille entre rêve et réalité, entre passé et présent. Patti Smith nous propose un livre inclassable, profondément sensible, et sincère, illustré par les photographies en noir et blanc qu'elle prend depuis toujours, ce qui confirme qu'elle est une artiste très actuelle, très singulière, indépendante. Et à ce propos, elle voue vraiment un vrai culte à Rimbaud, dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'elle est allée jusqu'à racheter la maison natale de Rimbaud en 2017.
Ah oui.
Voilà, à Charleville-Mézières. Donc, puisque c'est une invitation au voyage, on vous invite à aller au musée Rimbaud, à Charleville-Mézières, on peut y voir...
Voilà, c'est moins loin que d'aller à Mexico.
Bah voilà, on peut, au bord de la Meuse, prendre un petit peu de bon air. On peut y voir les portraits d'Ernest Pignon. Ernest, c'est un plasticien qui avait affiché des affiches de Rimbaud en pied et en jean un peu partout entre Paris et Charleville.
Donc, ah ouais.
Donc voilà, ça manque
Il
pas
avait fait des expositions sur Évreux.
Oui, lui, exactement, donc. Il était venu à Évreux.
Très bien.
Bah voilà.
Bon, bah... Merci beaucoup, Philippe.
Bah, merci à toi, Mireille. Et l'invitation au voyage est un titre sacrément bien choisi par toi, puisque c'est le titre de deux poèmes de Baudelaire.
Ah, bah alors.
Voilà.
Voilà. Ça devait être des vieilles réminiscences, alors.
Je pense. Là, tous les cordes et beauté, luxe, calme, volupté. Ça, c'est l'invitation au voyage.
Voilà. Bon, bah là, super. Bon, bah, j'espère que ces petits extraits voilà, vous auront plu, vous auront donné au moins donné la possibilité de voyager par l'esprit. Si vous bah, restez dans notre belle Normandie, où peut-être on aura du soleil, nous, cet été.
La canicule.
Voilà. Donc, bien, on se retrouve à la rentrée. Et bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances.
À l'auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.